Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio.
De plus en plus, on parle d'incohérence de la part du gouvernement Legault, d'une apparence d'être un peu girouette. Et ce qui amène souvent ça, ce sont des discours d'experts qu'on peut retrouver et au niveau du gouvernement et même parfois dans les médias. Là, je le disais un peu en début d'émission, il y a des experts, des scientifiques, des gens qui travaillent en santé qui sont devenus presque des personnalités publiques là, pendant la pandémie. Ils sont très, très sollicités dans différents médias là, pour donner leurs avis différents parfois sur les mesures sanitaires, sur la vaccination, sur les variants. Et vraiment, article très, très intéressant dans l'actualité par rapport aux désaccords qu'entretiennent parfois ces experts-là qui ont l'air de se contredire sur la place publique. Et ça devient pas mal mêlant pour nous, simples mortels, là, qui regardons, lisons des articles, puis on sait plus non plus, à un moment donné, à quel sens vouer. Roxane Borges de Silva est une de ces expertes-là qui est très, très sollicitée par les médias. Vous la connaissez, elle est souvent au micro à cette émission. Elle est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Roxane, salut!
Bonjour Geneviève.
Bon, juste pour qu'on puisse un peu se mettre dans le bain, là, que les experts soient pas d'accord ensemble, que ce soit sur la pandémie ou sur autre chose, quelque chose qu'on voit souvent en science en général. Là.
Absolument. Les principes de base de la science font que toute étude, toute recherche, toute donnée, en fait, est réfutable et reproductible. Donc, en fait, la science, en fait, est construite sur la base de cette réfutabilité, de cette reproductibilité qui fait qu'en fait, une nouvelle étude va être critiquée, analysée et on va essayer d'en faire une autre. D'autres scientifiques vont faire une autre étude pour essayer d'améliorer ou d'aller plus loin encore dans la découverte ou dans l'amélioration, finalement, des connaissances.
Ouais, puis tu sais, moi, parfois, j'ai l'impression, puis là, soyons délicats dans ce qu'on va dire, mais tu sais, les experts, ils sont professionnels dans leur domaine respectif. Tu sais, par exemple, je sais pas, moi, si je suis virologue ou si je suis pharmacienne ou si je suis infirmière ou si je suis, par exemple, experte en santé publique, j'ai pas la même connaissance, la même expertise sur tous les sujets en santé. Puis j'ai l'impression que là, en ce moment, on a des gens qui prennent la parole un peu n'importe quand sur toutes sortes de sujets de santé sous prétexte qu'ils travaillent en santé ou sont des scientifiques.
C'est sûr. En fait, il faut faire attention à ça et c'est ce que d'ailleurs dit Madame Bord dans son article, c'est que il faut faire attention aux disciplines de chacun. C'est sûr que un virologue qui s'exprime par exemple sur le couvre-feu, mais en fait, il donne un avis en fait de vulgarisateur scientifique basé sur les connaissances qu'il a pu lire ou avoir, mais c'est pas un expert, si je peux dire. Comme moi, par exemple, si je donne un avis sur la ventilation dans les écoles, mais en fait, c'est par rapport aux lectures que j'ai faites et par rapport aux discussions que j'ai avec ces collègues-là experts. Mais je me place pas comme une experte en ventilation dans les écoles. J'ai aucune compétence en qualité de l'air. Donc, il faut faire vraiment attention à la différence entre la vulgarisation scientifique et l'expertise, et on voit que les chercheurs ou les professionnels ou les profs d'université qui sortent dans les médias peuvent prendre à tour de rôle, malheureusement, un ou l'autre, ben malheureusement ou heureusement, parce qu'on est content d'avoir des vulgarisateurs scientifiques aussi, un rôle d'expert ou un rôle de vulgarisateur scientifique.
J'ai l'impression que parfois on fait pas toutes nos recherches, mais nos validations et tout ça. C'est pas parce qu'une personne a lu pendant 2 ans sur la pandémie qui est un expert sur le sujet. Là, tu sais, moi, parfois, je me prononce sur certains enjeux de santé publique, mais en tenant toujours en compte que je suis pas une experte de la santé. Je suis une citoyenne, comme tout le monde. Tu sais, mon avis, en fait, reflète l'avis de certains citoyens. C'est ce que je me dis. Il y a des gens qui ont été amenés dans les médias. Puis c'est pas des scientifiques, là. C'est juste parce qu'ils lisent sur la pandémie.
Oui. Et là, ça fait une différence encore plus, si je peux dire, et c'est un peu plus embêtant selon moi, parce que il faut faire attention. C'est quand même un grand travail que de faire cette analyse, et il faut avoir des compétences de base sur la santé publique ou sur la virologie ou sur le système de soins pour après pouvoir en parler de manière éclairée, si je peux dire, et avoir connaissance de toutes les informations et pouvoir être critique aussi sur ce qui sort et sur la littérature scientifique sur le sujet. Donc c'est difficile aussi. Il faut y faire attention.
Oui, ben ça, l'éthique de chacun évidemment est impliqué là-dedans. Par rapport au fait qu'on a des scientifiques qui se contredisent, c'est dommage, mais parfois c'est un argument qui sert aux personnes qui sont anti-mesures sanitaires, qui sont anti-vax. Ils se servent de ça pour nier, par exemple, des faits, des évidences scientifiques. Ils vont dire, par exemple, que vu que les experts s'entendent pas tous, ben en fait, ils savent pas de quoi ils parlent et que la science, on peut faire dire n'importe quoi à tout ça puis aux études.
Mais en fait, là, il faut faire attention encore. C'est vrai que normalement, ces débats d'experts ne se déroulent pas dans les médias. Ils se déroulent dans des congrès scientifiques dans lesquels on se retrouve, on discute, on jase et on a ces débats-là. Malheureusement, la science a avancé, a fait des avancées énormes et très rapides pendant toute la pandémie, les deux dernières années, qui fait que dès qu'une nouvelle information sortait ou une nouvelle étude, ben finalement, les journalistes tombaient dessus et interrogeaient des experts là-dessus. Or, les experts auraient dû avoir ce débat dans un congrès et non pas sur la place médiatique, devant le grand public. Et donc, c'est pour ça que ça mêle beaucoup la population et je le comprends très, très bien.
Mais oui, ça mêle la population. Puis nous, on n'est pas plus fous que tout le monde. Là, on essaie de lire, on essaie de se responsabiliser, de comprendre qu'est-ce qui se passe aussi, là, parce que tellement d'informations, puis les médias aussi tentent de faire de la vulgarisation. T'sais, à un moment donné, tu l'as dit, Roxane, là, lire des rapports scientifiques, lire des études, ça prend des compétences. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est journaliste scientifique. Puis tu sais, parfois, les médias veulent donner la parole à... Puis ça, je le comprends, là. Honnêtement, là, c'est pas pour critiquer mes collègues, mais un de nos rôles, c'est de donner la parole à tout le monde puis de présenter tous les points de vue. En même temps, est-ce qu'on trouve ça responsable de donner la parole à des scientifiques qui sont complètement en marge, là? C'est-à-dire un scientifique sur 100 qui pense une affaire, là, puis là, les 99 autres pensent l'autre affaire. On peut penser à Didier Raoult, là, quand je dis ça, évidemment, c'est l'exemple facile qui nous vient en tête. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est correct de parler à ce monde-là dans les médias?
Ben, moi, je suis plutôt en défaveur justement de donner la tribune à des personnes qui véhiculent des propos qui ne sont qui ne sont pas validés par la science ou par les pairs.
Mais là il y a tout le temps le discours là. Oui, mais toutes les gens qui découvrent des nouvelles affaires ou qui se présentent en porte-à-faux par rapport à l'opinion publique, ce sont des précurseurs qui sont toujours mis au banc puis ils passent pour des uluberlus, puis là on nomme des grands scientifiques comme Einstein et tout ça là.
Oui, mais en tout cas, il y a des validations par les pairs quand même qui peuvent se faire assez rapidement. Et d'ailleurs, on a vu que les papiers du docteur Raoult, les articles scientifiques du docteur Raoult n'ont pas passé différentes étapes à cause de cette validation par les pairs. Ils n'ont pas pu être publiés. Donc à ce moment-là, on peut attendre une semaine ou deux avant de se lancer dans lui donner le micro sur une nouveauté qu'il aurait soi-disant découvert, mais qui en fait n'en est pas une.
OK. J'ai envie de vous poser des questions sur votre implication dans les médias pour voir comment vous goupillez tout ça. Là. Vous êtes économiste en santé publique, t'sais, vous n'êtes pas une virologue, rien de tout ça. Est-ce que ça vient jouer dans vos décisions, par exemple, d'accepter ou pas certains types d'entrevues ou certains sujets?
Oui, ça m'arrive souvent de recevoir des demandes d'entrevues sur les nouveaux médicaments, par exemple, ou sur la virologie ou la microbiologie. Je refuse toutes ces demandes d'entrevues-là, j'ai aucune compétence. Par contre, il arrive que j'accepte des demandes d'entrevues comme des lignes ouvertes ou des choses comme ça, où là, je me retrouve devant des questions qui ne relèvent pas de mes compétences. Soit je vais le dire, soit je vais, parce que je me suis renseignée sur le sujet et que je connais le sujet, comme par exemple, je sais pas, est-ce qu'il faut la troisième dose ou pas. Là, je vais pouvoir m'avancer, mais ça c'est plus santé publique, c'est moins virologie, mais je vais pouvoir m'avancer sur le sujet. Mais c'est sûr que je passe d'un rôle d'expert à un rôle de vulgarisatrice scientifique, quelqu'un qui a lu les études et qui sait de quoi elle parle, sans être une experte du domaine.
Oui, puis en même temps, j'imagine que bon, depuis les deux années qu'on vient de passer, là, votre façon de vous exprimer, d'aborder les entrevues, de parler aux médias a changé. Là, c'était pas dans vos habitudes avant, par exemple, d'être appelé pour réagir à chaud à un point de presse du gouvernement, à des choses qui viennent d'être annoncées, voilà, 5 minutes. On l'a fait souvent ensemble, même là, cet exercice-là.
Oui. Non, c'est sûr que j'avais pas cette expérience-là. J'avais fait quand même pas mal de médias avant pour parler de mes projets de recherche, mais. Ben je l'ai apprise, il semble que je le fasse pas trop mal et donc du coup j'accepte les demandes d'entrevue parce que j'ai un très grand sens du bien commun et j'accorde beaucoup d'importance à vulgariser les connaissances et à informer la population sur les données et sur la science. Donc c'est ça qui m'a animé beaucoup à accepter toutes ces demandes d'entrevue au cours des deux dernières années.
Oui, je parlais tantôt du fait que ça pouvait être pris par des personnes qui sont anti-vax, complotistes sur les bords, qui adhèrent pas aux mesures sanitaires, le fait que les scientifiques se contredisent. Parfois, Un des trucs qui ressort particulièrement sur les médias sociaux, c'est l'idée selon laquelle les scientifiques sont à la solde d'eux. Et là, je m'explique. On parle beaucoup des conflits d'intérêts, là, du genre certains médecins, quand ils prescrivent telles affaires, parce que dans le fond, les compagnies pharmaceutiques leur donnent des cadeaux, leur paient des croix. Il y a cette idée-là là, de dire aussi, d'aller voir le passé des experts. Même ceux qui sont à l'INSPQ, là, on dit, ah, ils sont payés par le gouvernement, donc ils sont pas objectifs. Est-ce que ça se peut d'être un expert en santé, d'être un scientifique et d'être complètement indépendant de ces compagnies-là, des pharmaceutiques?
Mais en fait, c'est sûr que on pourrait dire, a priori, on pourrait avoir une crainte par rapport aux médecins. Mais il faut quand même rappeler que les médecins, il y a des règles très strictes, des lois qui leur interdisent d'accepter des cadeaux des pharmaceutiques.
Mm-hmm. Mais cette idée-là, elle est présente dans la population.
Mais pourtant, ils sont très surveillés là-dessus et ils peuvent pas accepter de cadeaux de pharmaceutiques. Mm-hmm. Par contre, ils peuvent siéger sur des comités de pharmaceutiques ou des conseils d'administration dans les compagnies pharmaceutiques. Ça, évidemment, ils peuvent le faire. Et ils peuvent travailler aussi une partie de leur temps, j'imagine. En tout cas, ça doit être faisable de travailler une partie de leur temps dans les pharmaceutiques. Pour des experts comme, par exemple, moi qui viens plus des sciences humaines, ben, je vois pas quel conflit d'intérêt je pourrais avoir parce que je suis pas ni virologue, ni pharmacienne, ni quoi que ce soit. Ouais. Donc, je peux pas. Mais je pourrais avoir des conflits d'intérêt avec des banques peut-être, mais c'est pas l'objet pour la pandémie. Mais
oui.
Donc c'est ça, en fait, par rapport à l'économie, je veux dire. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que des gens, des universitaires qui n'ont pas d'affiliation directe avec le gouvernement et ou avec des pharmaceutiques sont des experts indépendants. Et normalement, les universitaires le sont tous ou doivent déclarer des déclarations de conflit d'intérêts à leur université tous les ans. C'est obligatoire.
Mais un scientifique qui travaille pour le gouvernement, il y a bien des gens qui se disent qu'il peut pas faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut, qu'il est à la solde d'eux. Vous pourriez travailler pour le gouvernement? Par exemple?
Ah ben non, je peux pas travailler pour le gouvernement. Moi, je suis employée de l'université, donc,
ouais.
Le gouvernement pourrait me donner un contrat.
Oui.
Mais ça m'intéresse pas vraiment, en fait, pour l'instant, là. Je veux dire, j'ai pas eu cette opportunité-là, puis je suis pas sûre que je la veuille non plus. Il faudra analyser les choses et voir comment ça se passe, mais j'accorde beaucoup d'importance à être indépendante pour pouvoir justement m'exprimer librement en me basant sur la science et non pas en fonction d'intérêts quelconques.
On est bombardé d'informations, toutes parts d'articles sur la pandémie, sur le virus, sur le variant. Comme personne, comme consommateur de l'information, est-ce que vous auriez des trucs à nous donner sur qui lire, comment déterminer qui est un expert crédible, un bon expert ou encore voir si un article est fondé ou pas, là?
Mais en fait, la chose importante à savoir, c'est que la science n'est pas ni blanche ni noire. Mmh. Elle est toujours grise. Il y a toujours des nuances. Donc, un expert qui va affirmer que le vaccin ne marche pas, comme l'a fait par exemple le docteur Raoul, on peut commencer à se méfier déjà, parce que c'est pas normal que ça soit ou blanc ou noir, ça marche ou ça marche pas. Les experts vont avoir beaucoup donc de retenue dans leurs propos. Les experts indépendants et scientifiques là, vont avoir beaucoup de retenue dans leurs propos et plutôt questionner des mesures ou s'appuyer sur la littérature scientifique pour avancer leur argumentaire. Une autre chose qu'on peut regarder aussi, c'est les profils avec des experts qui sont dans les médias. Si on tape leur nom dans Google, on va tomber sur leur profil, leur CV, on va trouver leur CV facilement sur les sites des universités et on est capable de voir aussi s'ils ont cette expertise-là ou pas dans leur profil pour parler ou de santé publique ou de système hospitalier ou de virologie ou de ce qu'on veut.
Oui, effectivement. Puis on retient qu'il faut se méfier de l'absolutisme en science. Roxane Borges de Silva, merci, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On revenait sur cet article, ce dossier de l'actualité, sur le fait que c'est normal que les experts cités souvent sur la pandémie se contredisent parfois.